Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent jour de fête. C'est difficile de suivre un numéro comme Madame Samuel. Hein? Quel plaisir. Bon, j'ai commencé avec un test. Qu'est-ce que vous avez retenu de la sermonnette de Monsieur Paul? Trois mots. C'est très simple, c'est le même mot. Calme. 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 Vous savez, c'est une bonne introduction pour moi. Vous savez, nous sommes tous ensemble, frères et sœurs. Au bord de la mer, c'est pas n'importe quelle mer, une mer sur laquelle les apôtres ont navigué. Jérusalem, c'est un peu par là. Hein? L'endroit est joli, nous mangeons bien, peut-être trop bien. Il y a de l'abondance. Mes frères et sœurs, pourquoi sommes-nous ici? Nous avons une explication, nous avons eu une explication de notre rôle en tant qu'épouse de Christ. Notre rôle dans la famille royale de Dieu. Alors, sommes-nous ici parce que c'est une tradition? Ou bien y a-t-il de la profondeur à notre présence ici? Le monde soi-disant chrétien a ses traditions. Et la plupart de ces traditions sont d'origine païenne. La plus grande fête dans ce monde-là est la Noël. Et pourtant, elle n'est pas biblique. Le Christ n'est pas né en hiver, car en hiver, les bergers ne sont pas près de leur troupeau. Nulle part dans la Bible, on nous demande d'observer l'anniversaire de la naissance du Christ. Dans le temps, l'origine de la Noël était un sujet tabou. De nos jours, l'origine païenne est mentionnée même, sans complexe, sur les médias. Il est étonnant que dans un monde qui rejette de plus en plus Dieu, on s'accroche à ces traditions qui ne sont pas bibliques, mais qui sont, il faut bien l'avouer, une grande aventure commerciale. Alors, qui dit le Christ des traditions? Marc chapitre 7, si vous voulez bien. Nous commençons au verset 1. Marc chapitre 7, s'il vous plaît. À partir du verset 1. Ici, nous lisons, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à quoi? Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Les observances traditionnelles, nous lisons, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases, des reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? » Et Jésus leur répondit, « Hypocrite, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et c'est en vain qu'il m'honore, verset 7, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Nous lisons au verset 8. et vous observez la tradition des hommes. Les traditions observées par les pharisiens, les sadduciens, les scribes, étaient très nombreuses. Mais la réponse du Christ est très claire, n'est-ce pas? Alors, frères et sœurs, quand notre présence ici, aujourd'hui, pendant cette fête, le tabernacle et le dernier grand jour, elle n'a rien à voir avec les traditions des hommes. Elle répond à des instructions divines que nous sommes, frères et sœurs, engagés à respecter. Il y a quelques semaines, j'étais au Burundi avec différents groupes de gens qui découvrent pour la première fois les fêtes divines. Et c'est vraiment émouvant de voir leur premier pas dans la vérité. Vous êtes quelques-uns ici parmi nous aujourd'hui. Et c'est votre première fête, n'est-ce pas? Eh bien, ces gens découvrent avec émotion ces fêtes qu'ils n'observaient pas et comprennent enfin le plan de Dieu. Ils commencent à comprendre le plan de Dieu. Car les fêtes divines sont la clé pour comprendre ce que Dieu fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Observer les fêtes n'est pas quelque chose à la discrétion des chrétiens, pas quelque chose laissé à la discrétion des chrétiens, c'est quelque chose que Dieu a commandé de faire. Et ce n'est pas pour compliquer notre vie professionnelle, mais pour nous révéler son grand plan pour l'humanité. Cette révélation, nous ne la partageons pas avec beaucoup de monde, n'est-ce pas? M. Armstrong a quitté l'Église de Dieu où il se trouvait parce qu'il n'observait pas les fêtes de l'Éternel et refusait de le faire. Il ne voulait pas changer. Il voulait retenir de ce qu'ils avaient, le sabbat, le nom de l'Église. Donc, il respectait uniquement les sabbats hebdomadaires. Et pourtant, l'observance des fêtes nous apporte la compréhension du plan de Dieu. Une compréhension tellement importante, tellement précieuse, que Dieu a prévu de nous faire répéter chaque année, chaque étape, année après année. Et de plus, il nous est impossible de comprendre correctement le concept de la nouvelle naissance sans comprendre le plan de Dieu. C'est un concept fondamental. Impossible aussi de comprendre ce qu'est la conversion, la véritable conversion, qui commence avec le sacrifice du Christ, sans lequel rien n'est impossible. Pardon, rien n'est possible. Ça, c'est le rappel de la Pâque, n'est-ce pas? Qui se met en mouvement avec la chasse au péché, le changement de vie qui est symbolisé par le fait des pains sans levain, un processus qui n'a pas lieu uniquement avant le baptême, mais qui dure toute la vie. La réception du Saint-Esprit qui est symbolisé par la Pentecôte. Le reste des jours saints nous focalise vers le futur, ce qui va arriver, vers ce qui va non pas nous impacter, nous personnellement, même si ce sera le cas, bien sûr, mais il nous focalise sur les événements qui vont impacter toute l'humanité et qui nous tournent forcément vers le futur, vers la fin de ce monde, qui part de plus en plus vite à la dérive. Et cette vision des choses à venir que n'avait pas l'Église de Sardes à l'époque de M. Armstrong s'en mort spirituellement. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Apocalypse chapitre 3, verset 1. « Ici, nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a cet esprit de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et c'est tellement émouvant, frères et sœurs, de rencontrer ces gens, que ce soit au Burundi ou ailleurs, ces gens qui ignoraient que les disciples avaient observé ces jours et qu'ils font partie de ce que Dieu nous demande, ce qu'il commande de faire. Mais cette vision, je pourrais l'appeler ça, cette compréhension que nous avons, nous ne le devons pas à une intelligence supérieure aux autres. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le plan divin. Et celui-ci ne peut être compris que par la signification des fêtes de l'Éternel. Il y a des gens qui rejettent les fêtes de Dieu, qui ont rejeté les fêtes de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas toujours été fidèle à l'observance des fêtes annuelles. Et remarquez que lorsque Dieu décide de remettre de l'ordre, soit dans l'ancien Israël ou même avec nous, de notre temps moderne, cela commence principalement par la restauration des fêtes de l'Éternel, qui ont été négligées ou même oubliées. Dieu a attendu de ne plus travailler avec les individus, mais avec tout un peuple pour présenter les fêtes de l'Éternel de manière officielle. Et cela n'exclut pas que les patriarches aient été au courant et les observaient. Mais Dieu les présenta à son peuple, car cela allait être des événements qui devaient les unir. Lorsque nous lisons Exode chapitre 12, nous y découvrons pour la toute première fois l'Église de l'Ancien Testament présentée sous forme d'assemblée. Et la première chose que l'on remarque, c'est que cette assemblée a une mission. Une mission à remplir. Mais une mission à remplir collectivement. Elle doit préserver un calendrier. Elle doit observer la Pâque. Elle doit observer aussi les pains sans levain. Alors, la première chose que Dieu a choisi de faire avec l'Assemblée d'Israël fut de lui expliquer les fêtes annuelles de la Pâque et des pains sans levain. Et à ce moment-là, Dieu ne le mentionne pas encore, la Pentecôte, les trompettes et les autres fêtes qui seront données plus tard. Ces fêtes commémorent alors un événement survenu à l'Assemblée d'Israël, mais aussi au cours de ces fêtes que des événements surviennent. Au lieu d'appeler les descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Dieu aurait pu appeler des Grecs ou des Chinois ou des Éthiopiens, mais c'est à cause de la promesse faite à Abraham que Dieu fait sortir le peuple d'Égypte. Remarquez à Genèse chapitre 15. Je vais vous le lire. Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Genèse chapitre 15, versets 13 et versets 14. Ici, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Et ce n'est que parce qu'ils observent ce que Dieu a commandé, ce qu'ils observent convenablement, la Pâque et les fêtes des pains sans levain, que le peuple d'Israël fut délivré. réfléchissons un petit peu. Nous savons que s'ils n'avaient pas aspergé les poteaux ni les linteaux des portes avec le sang de l'agneau, leur premier-né périt, comme l'ont péri tous les premiers-nés des Égyptiens. S'ils n'avaient pas été assemblés au cours de la soirée mémorable, ils n'auraient pu quitter l'Égypte. Ils seraient restés sous l'esclavage de Pharaon. S'ils n'avaient pas observé les derniers jours des pains sans levain au bord de la mer Rouge, ils n'auraient pas été là, sur place, pour traverser au moment choisi par Dieu. Si l'assemblée d'Israël n'a pas été détruite, c'est parce qu'elle a observé ces fêtes, observant ainsi ce que Dieu a commandé, obéissant à Dieu. Voyons les toutes premières instructions données par Dieu à son peuple pour les fêtes, ici dans Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Exode chapitre 12, verset 1. En fait, ce sont les toutes premières instructions données par Dieu à son peuple, collectivement, pour les fêtes annuelles. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » C'est le calendrier sacré. « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Il en prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette même nuit, verset 8, on en mangera la chair, rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 11, nous lisons, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je passerai par-dessus vous, verset 13, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mais le peuple devait suivre les instructions de Dieu. Il devait donc garder l'agneau jusqu'au 14e jour pour l'immoler entre les deux soirs. Et cette même nuit, pas une autre nuit, cette même nuit, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, il devait passer par-dessus son peuple pour exempter de la mort ce qui était réservé au premier-né du pays d'Égypte. Et après cela, nous trouvons les instructions pour la fête des pains sans levain. Exode chapitre 12, toujours, le verset 15. Les instructions très claires qui disent, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de pain dans vos maisons. » Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et nous lisons, le septième jour, vous aurez aussi une sainte convocation. Et on ne fera aucun travail, etc. Verset 17 qui dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que je ferai sortir vos armées du pays d'Égypte. Pas un autre jour. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous remarquez bien qu'au verset 17, l'Éternel confirme qu'il s'agit bien d'une fête. Une fête dont l'observance est une loi. Une loi qui doit être observée à perpétuité, comme cela a été indiqué. L'ordre est donné de se réunir au cours du premier jour ainsi qu'au cours du septième jour. Ce n'est donc pas une invitation de prendre ou pas à la légère. C'est un commandement, mes frères et sœurs, un commandement à perpétuité. Et ensuite, Exode chapitre 19, verset 15. Exode chapitre 19, verset, pardon, 5, le verset 5. Nous lisons, « Vous m'écouterez ma voix. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Dieu conduisait son peuple au Sinaï. Il ressembla au pied de la montagne. L'assemblée n'aurait pas reçu la loi si le peuple avait considéré ce jour comme un jour ordinaire. Ce jour où l'Éternel parla du haut de la montagne. Aucune alliance n'aurait été conclue avec le peuple d'Israël et aucune promesse ne lui aurait été faite. Le troisième mois, comme on lit dans l'Exode chapitre 19, c'est la Pentecôte. Et en lisant cette histoire, nous nous rendons compte combien il est important d'utiliser certaines périodes de temps pour répondre à une sainte convocation, pour plaire à Dieu, car Dieu se plaît à faire certaines choses au cours de périodes bien précises. En donnant la loi qui fait suite aux 10 commandements, Dieu parle de 3 périodes. Exode chapitre 23, verset 14, à partir du verset 14, s'il vous plaît. Il y a d'autres passages similaires, mais ici, dans Exode chapitre 23, verset 14, ici, nous parlons de 3 fois par année. Ce sont 3 époques ou 3 saisons. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Lisons Deutéronome 16, 16 et 17 aussi, en parlant de cette offrande qui devrait être donnée. Verset 16, tu observeras la fête de la moisson, de la saison suivante, le prémisse de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, voilà la troisième saison, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. 3 fois par année, verset 17, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. 3 époques, 3 saisons. Il vaudrait bien remarquer que les 4 versets que nous venons de lire sont incorporés dans ce qui va être l'alliance. Une alliance qui sera acceptée par le peuple. En fait, alors qu'ils étaient sur la montagne de Sinaï, l'Éternel a rappelé au peuple les 10 commandements. Revenons au Exode chapitre 20. Exode 21 plutôt. Je vais vous le lire. Notez Exode chapitre 21, verset 1. Et là nous lisons, « voici les lois que tu leur présenteras. Exode 21, verset 1. Et ils étaient d'accord de les mettre en pratique. Et c'est dans ces lois que nous trouvons au chapitre 23, verset 14 à 17, où il est question de célébrer des fêtes en son honneur trois fois par année, pendant les trois saisons, les trois époques. Les fêtes annuelles sont bien des lois, pas des traditions. Ce sont les lois de l'Éternel. Et comme nous le verrons, ces fêtes sont rattachées au quatrième commandement et ne sont pas des traditions d'hommes. Le peuple a dû être présent ce jour-là pour recevoir de manière très officielle ces lois. Alors quand Dieu nous demande de faire des choses à des dates précises, c'est très important à ses yeux. Venons au livre de Lévitique, Lévitique chapitre 23, partie du verset 1. Alors ici, l'Éternel détaille non seulement les trois périodes de fête, mais aussi leur date. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 1, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parles aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cinq convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ce ne sont pas les nôtres, hein, mais les fêtes de l'Éternel. On commence par le sabbat, verset 3. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. C'est un ordre. Ce n'est pas une invitation. Ce n'est pas une tradition. C'est un ordre. Peu importe ce que les autres Bibles traduisent. Ici, c'est un ordre. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Il s'agit du sabbat hebdomadaire, qui est un moment bien défini. Et nous voyons ça partout dans la parole de Dieu. Et c'est consacré à Dieu. Et remarquez que le sabbat est mentionné dans ce contexte très important où nous trouvons les fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes de l'Éternel, verset 4. Les cinq convocations que vous publierez à leur temps fixé. Premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, verset 6, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Et vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Et le septième jour, il y aura une sainte convocation. C'est au cours du 14e jour que l'Éternel a ordonné le sacrifice de l'agneau. C'est à ce jour-là qu'il est passé par-dessus des Israélites, comme nous l'avons vu dans Exode 12. C'est au 15e jour que commence la fête des pains sans levain. Et c'est au cours de chacun de ces sept jours, de cette fête, que nous avons pour obligation de manger des pains sans levain. Verset 9. Lévitique chapitre 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu le diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Elle y agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Et le jour, verset 12, le jour où vous agiterez, vous offrirez en holocauste un agneau à l'Éternel, un agneau sans un an, sans défaut. La Bible parle de trois saisons. La Pâque, fête des pains sans levain, tombe au cours de cette première saison. La Pentecôte, au cours de la deuxième saison. Et nous lisons au verset 15, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez des gerbes pour être agitées de côté à d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » C'est le 3e mois. Et puis la fête des trompettes annonce la 3e saison. Nous y sommes. La 3e saison où nous trouvons également le jour des expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Cette saison tombe à la fin de l'été. C'est le 7e mois. Verset 23, nous lisons, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Verset 26, plutôt verset 27, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations et vous aurez encore une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. Ici, nous avons une précision de plus. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Coucher de soleil ou coucher de soleil. Alors, la fête de tabernacle, nous y sommes. Voici la fête qui symbolise le millénaire. 1000 ans de gouvernement sous le Christ. Et puis, le 8e jour, ce qu'on appelle le dernier grand jour. L'Éternel parle à Moïse et dit, verset 33, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête de tabernacle en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Et le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Et puis le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. » C'est le 8e jour, ce qu'on appelle le dernier grand jour, qui symbolise la récolte de tous ceux qui n'ont jamais connu réellement Jésus-Christ, ni le plan de Dieu, certainement ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Et ici, nous lisons, vous aurez une sainte convocation, et puis le verset 37 qui dit, « Tels sont les faits de l'Éternel, qui sont clairement les saintes convocations. » Ce sont des commandes, pas des traductions. Les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Ce sont, ou plutôt ces fêtes sont des lois qui décrivent le plan de Dieu, qui définissent certains événements qui doivent survenir à des époques fixées par Dieu. Et pour bien faire comprendre son plan, Dieu se sert de ce qu'on a vu, des symboles tout simples, ces symboles basés sur l'expérience humaine de la récolte des céréales. Car c'est une récolte que Dieu confère parmi les hommes afin de les accueillir dans sa famille, dans son royaume. Et tout comme un agriculteur doit être très attentif au temps qui passe, Dieu a établi des jours saints à des moments précis. Ce n'est donc pas nous qui décidons quand nous devons les observer. Cette décision revient à Dieu. Et tout comme il y a 2 moissons en Palestine, une petite et une grande, il en est de même au sein de l'humanité. Le petit troupeau, l'Église, est la première récolte. Le reste de l'humanité, la grande récolte, viendra plus tard. Mais ce n'est pas tout. La plupart des grands événements qui ont marqué des étapes importantes dans l'histoire du peuple de Dieu ont eu lieu lors des fêtes divines. On va voir que quelques exemples. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 3, s'il vous plaît. Ici, c'est l'époque de Salomon. Il y a eu la dédicace du temple. 2 Chroniques chapitre 5, s'il vous plaît, verset 3. Et nous verrons dans quelle période ceci se passe. 2 Chroniques chapitre 5, verset 3. Tous les peuples d'Israël se réunissent auprès du roi pour la fête, qui se célébrera le 7e mois. On est bien situé, n'est-ce pas? Et eut lieu au cours d'une fête du 7e mois. Trompette, expiation, la fête des tabernacles, dernier grand jour. Ce qui est très logique à première vue, car il est aisé de comprendre combien il est important qu'un tel événement puisse se célébrer devant un maximum de personnes, devant la congrégation. N'empêche que c'est aussi au cours d'une fête que la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Un peu plus loin, 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. Et nous lisons ici, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et à partir du verset 8, nous lisons, Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours. Et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs d'Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Et puis au verset 9, nous lisons, le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours, et la fête pendant 7 jours. Et le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Et c'est au moment de ce moment-là que le temple est devenu le centre de culte pour le peuple. Verset 12, nous lisons toujours dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. » Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. C'était après 7 jours de la fête des tabernacles. Et le 8e jour, bien sûr, c'est le dernier grand jour. Il y a d'autres exemples pour le peuple d'Israël. Il y a d'autres exemples que nous pouvons lire. Par exemple, dans 2 Chroniques chapitre 30. Ou plutôt 2 Chroniques chapitre 29. 2 Chroniques chapitre 29, verset 17. Ici, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ici, nous apprenons que le peuple s'éloigne de Dieu et il y a une division au sein du peuple, un schisme. Il avait désormais 2 royaumes au lieu d'un seul. Alors, Ézéchias, roi de Juda, voulut une réformation. C'est-à-dire une mise en ordre, un changement d'attitude de la part de sa nation. C'était la nation de Juda. C'était après le mort de son père. Et il demanda aux sacrificateurs et aux lévites de purifier le temple. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 17. Ils commençaient ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois. Ils entraient dans la politique, dans le portique de l'Éternel. Et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel, et le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Alors, la purification étant achevée le 16e jour du premier mois, il est trop tard pour l'observance de quoi? De Pâques, hein, qui est le 14e. Alors, un peu tard pour le pain sans levain, comme cela aurait dû se faire le 14e et 15e jour de ce mois. Nous savons, après Nombre chapitre 9, qu'il y a possibilité, ou c'est prévu que la Pâque pouvait être reportée un mois, en cas de nécessité. Mais ici, au chapitre 30, voyons ce que fit le roi, ici, dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 1. Ézéchias, envoyant des messagers dans tout Israël et Juda, l'écrivit aussi des lettres à Éphraïm et Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois, comme je dis en concordance avec nombre 9. Car on ne pouvait le faire en son temps, parce que le sacrificateur ne s'était pas sanctifié en assez grand nombre, et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple se tourne vers Dieu. Hein? La première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est de venir adorer Dieu dans son temple et d'observer le fait de l'Éternel. Observer, bien sûr, qui veulent faire sa volonté, bien entendu. Verset 4, toujours dans le chapitre 30 de 2 Chroniques, versets 4 et 5. Les choses ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidaient de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vint à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Certains trouvaient cela ridicule, mais d'autres prirent cela au sérieux et s'humilièrent devant l'Éternel. Verset 10, nous lisons, « Les coureurs allaient ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et revinrent à Jérusalem. » Alors au verset 1, nous avons vu que le roi avait envoyé des messagers dans tout le pays, dans Juda et dans tout Israël, donc vers toutes les Israélites, vers toutes les tribus. Mais de toutes les tribus d'Israël, seuls quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon accepter de s'humilier. Autrement dit, très peu, peut-être des Belges, ou des Américains, ou des Hollandais. Alors, verset 12, dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour le donner un même cœur, et de le faire exécuter l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. Et un peuple nombreux se réunit à Jérusalem, pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Et ce fut une immense assemblée. Alors, il s'agit bien d'une décision du roi, car à l'époque de Moïse, il avait été prévu que seul le Pâque pouvait être pris un mois plus tard. L'assemblée revient vers Dieu et décida de célébrer la fête de l'Éternel. Et encore 7 jours de plus, il y avait tellement de réjouissance. Verset 23, nous lisons, « Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours et célébrer joyeusement ces 7 jours. » Et vous voyez, c'est un temps de réformation. Ce temps de réformation se concentre sur les fêtes de l'Éternel. Et lorsque le peuple s'applique son cœur à respecter les sabbats annuels, il a alors une bonne attitude pour bien observer la loi. Et c'est au cours des fêtes qu'ils apprennent à bien connaître la loi, par la lecture qui lui est en effet. Alors, la première fête qui dure 7 jours est celle des pains sans levain, et le levain, c'est le péché. C'est donc au cours de ce premier fête, ou ce premier festival de 7 jours, que l'on apprend à rejeter le levain de nos maisons, donc rejeter le péché de nos vies. Et en ce faisant, on établit en fait la loi dans notre vie. Mais comment peut-on établir la loi en rejetant le péché? J'ai un coup d'œil dans Romains chapitre 8, verset 5 au verset 7. Romains chapitre 8, verset 5 au verset 7. Ici, c'est Paul qui écrit, en commençant par le verset 5 dans le chapitre 8 de Romains, Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est l'amour, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Se soumettant à la loi de Dieu, c'est refuser de le transgresser, c'est rejeter le péché, et en refusant de transgresser la loi, on l'établit, on reconnaît, on prouve, on démontre son existence. La réformation imposée par Ézéchias au cours du fait des pains sans levain amène quoi? Eh bien, le peuple a adopté une attitude dont le résultat est décrit un peu plus loin ici dans 2 Chroniques chapitre 30, verset 26. Revenons dans 2 Chroniques chapitre 30, verset 26 et verset 27. Il y a eu à Jérusalem de grandes réjouissances. De grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Et les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvient jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Après le désastre religieux provoqué par la reine de Manassé et celui de son fils Amon, une autre réformation, décrite dans les chapitres 34 et 35 du deuxième livre de Chroniques, se verra encore nécessaire. Il y a eu encore d'autres réformations. Et au cours des réformations de ce genre, il y a toujours été nécessaire de rétablir d'abord les fêtes de l'Éternel, les fêtes commandées par Dieu. Les fêtes commandées que Dieu commande d'observer, parce que lorsqu'on a suffisamment de respect pour sanctifier le temps que Dieu demande de traiter avec respect, il sait qu'ensuite on aura le respect nécessaire pour les autres choses qu'il demande de faire. Mais si on ne respecte pas le temps fixé par Dieu, on n'aura pas non plus le respect pour le reste. Nous observons les fêtes, non pas tradition, frères et sœurs, mais par respect pour les autres divines, par obéissance, par respect profond pour Dieu. Nous observons les fêtes, non pas tradition, mais par respect pour notre Dieu Tout-Puissant. Alors, après la captivité de Juda, après le retour des fils de la captivité au jour d'Esdras, le sacrificateur, et Néhémie, le gouverneur, nous voyons une fois de plus la nécessité de rétablir les fêtes de l'Éternel. Encore une réformation. Et ce qui est plus significatif, c'est qu'il y a eu un changement d'attitude d'une nation. Mais ce changement n'eut lieu qu'après l'observance de quoi? Une fête. Néhémie chapitre 8, verset 1. Néhémie chapitre 8, verset 1. Néhémie chapitre 8, verset 1, nous lisons. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, apportez le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Et Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et au verset 14, nous apprenons quand ça a eu lieu. Ils se trouvèrent écrits dans le livre que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois. Et au verset 18, on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Et on célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. C'est tout comme nous faisons aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, par les évangiles, nous savons que le Christ a observé les fêtes. Et nous lisons ainsi, nous laissons ainsi un exemple que nous devons suivre. Jésus-Christ avait souvent été accusé de transgresser quel jour? Mais c'était le sabbat. Mais c'était les fausses accusations. Il n'a jamais péché. Et donc, observer toute la loi, y compris le sabbat et les fêtes annuelles. Marc chapitre 2, nous lisons. Marc chapitre 2, verset 27 et verset 28, je vais vous le lire. Vous notez Marc chapitre 2, verset 27 et verset 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. L'homme n'a pas été fait pour servir le sabbat, mais le sabbat a été fait pour le bénir, pour bénir l'homme. Et en fait, le sabbat a été instauré après la création de l'homme. Et comme à l'époque de l'Ancien Testament, les événements cruciaux du Nouveau Testament eurent lieu le jour d'une fête. Regardez, en Actes chapitre 2, verset 1 et verset 4. L'Église de Dieu fut fondée, quel jour? C'était le jour de la Pentecôte, la fête de Pentecôte, lors de la fête des semaines, en l'an 31. Les disciples étaient assemblés pour ce jour de fête. Et vous rendez compte, s'ils n'étaient pas là, s'ils avaient refusé de s'y conformer, ils n'auraient pas reçu le Saint-Esprit. Ça vous lirez dans Actes chapitre 2, verset 1, verset 4. Et par conséquent, l'existence même de l'Église du Dieu du Nouveau Testament a débuté un jour de fête. Et cette fête, qui est aussi appelée la fête de la moisson, symbolise quoi? Symbolise la moisson de tous ceux qui, ayant reçu le Saint-Esprit, feront partie de la première résurrection, la première récolte qui aura lieu lors du retour du Christ. Et qu'est-ce que nous constatons ensuite? Et la petite communauté grecque qui se trouve à Colosse est avisée par Paul de ne pas laisser les hommes le juger. Au sujet de quoi? Des fêtes, de l'observance des fêtes. Vous lirez ça dans Colossiens chapitre 2, verset 16 et verset 17. Quand M. Weston nous a expliqué le premier soir, Colossiens chapitre 2, verset 16 et verset 17, je vais vous le lire. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la cour est en Christ. C'est la cour de Christ qui juge l'Église. La nouvelle lune n'est pas une fête, nous savons bien, mais tout simplement un critère important pour déterminer le commencement des mois. Est fixé forcément le début de ces fêtes. Il n'existe aucune raison pour que l'Église de Dieu, qui était à Colosse, se laisse juger ou se laisse critiquer sur ce qui est l'ombre des choses à venir. Car justement, ces fêtes sont l'ombre d'événements à venir, n'est-ce pas? Certains demandent, mais si c'est un ombre, pourquoi faut-il les observer? Et la réponse est tout simple, que si ces fêtes sont une ombre, des choses à venir, la réalité n'est pas encore arrivée. Nous devons donc les observer pour nous rappeler justement ce qui doit encore arriver. Et c'est exactement ce que nous faisons, frères et sœurs, ici, ensemble aujourd'hui, en sortant du monde. est de toute façon déjà arrivé, comme c'est le cas pour la Pâque, ou pas encore arrivé, elle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle le plan de Dieu. Et elle nous fait connaître les étapes qui doit parcourir le chrétien pour voir le bout ou l'apothèse de ce grand plan de Dieu. Alors les Israélites et les Juifs qui ont observé la Pâque avant la venue du Christ le prenaient en sachant qu'il devait venir ce qu'ils espéraient. À l'époque, la Pâque était l'ombre des choses à venir, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous prenons la Pâque au jour fixé par Dieu. Et si nous prenons du pain et du vin au cours de cette cérémonie, c'est parce que nous suivons l'exemple. L'exemple que Jésus-Christ nous a laissé avant son arrestation. Quand il a dit dans Luc chapitre 22, verset 19, vous le notez, Luc chapitre 22, verset 19, « Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi, l'agneau de Dieu qui suit votre Pâque. » Alors aussi, nous observons le fait des pains sans levain. C'est parce que 25 ans après la mort du Christ, Paul écrit aux Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, qui devaient suivre l'exemple de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Ici, nous lisons, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Paul leur écrit aussi pour leur rappeler que s'ils éliminent le levain de leur maison, non pas tradition, mais comme cela est requis, dans Exode chapitre 12 et autres, ils doivent en plus éliminer de leur vie le vieux levain, le vieux péché, dont ils ne se sont toujours pas débarrassés. Et il conclut avec les mots qui disent quoi? Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Et quelle fête? C'est le pain sans levain. Vous lirez ça dans 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 5 et verset 8. Vous notez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 et 8. Et vous pouvez lire dans Actes chapitre 16, verset 3. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes haut de la porte vers une rivière et nous pensions que nous se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Paul se réunit le jour du sabbat. Actes chapitre 18, verset 19 et verset 20. Actes chapitre 18, verset 19 et verset 20. Ici, c'est Paul qui se trouve à Éphèse. En l'an 52, Paul refuse une invitation qui lui est faite par les Juifs de prolonger son séjour. Et nous allons lire pourquoi. Actes chapitre 18, verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entrés dans la synagogue, ils s'entraînent avec les Juifs, qu'ils le prient de prolonger son séjour, verset 20. Et puis ils disent, mais il n'y consentait point. Il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. » Et puis il dit, « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Alors pourquoi Paul doit absolument fêter la prochaine fête à Jérusalem? Tout simplement parce que Paul veut se conformer aux ordres divins et lui, qui a été enseigné directement par Jésus-Christ, déclara dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Les fêtes, mes frères et sœurs, ne sont pas des simples traditions, mais bien les commandements donnés par le Christ, l'Éternel de l'Ancien Testament. Paul les avait observés en imitant le Christ. Il a dit, faites ça comme moi. J'ai imité le Christ. Au cours de son histoire, l'Église de Dieu a toujours eu des hauts et des bas. Les Églises de Dieu ont observé les fêtes annuelles, et de temps en temps, elles les ont négligées. Au siècle dernier, ces fêtes commandées et données à perpétuité ont été oubliées, quasiment de tous, hormis quelques rares personnes. Et cela jusqu'au moment où Dieu les a révélées à M. Armstrong. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que nous sommes revenus à l'enseignement clair, précis des temps apostoliques. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, frères et sœurs, pour nous? Eh bien, lorsque nous observons le sabbat, nous pratiquons chaque semaine un devoir fondamental. Chaque fois que nous observons une fête, pain sans levain, la fête des tabernacles, le dernier grand jour, nous pratiquons aussi un devoir fondamental. L'Église de Dieu qui les observe comme cela est requis, reste en contact avec Dieu, car elle les observe tels que Dieu les a révélés dans sa parole, conformément aux prescriptions précises de la Bible. Frères et sœurs, vivez donc ces quelques jours avec profondeur et gratitude, en sachant que vous vivez en tant qu'Église les fêtes de l'Éternel, qui est une vision de la réalisation du plan de Dieu.